Nuages d'Hélène. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
Bienvenue dans cette nouvelle émission Nuages d'Hélène sur Jet FM. Aujourd'hui, nous partons à Chambéry avec le film documentaire « Avec les mots des autres ».
Comment ça va, Mme So?
Corona, moi, c'est de l'eau, moi, j'étais en train de me faire, je suis en train de me faire. Quand on a eu un peu de temps, je suis en train
de me faire.
Mais est-ce que quelqu'un est... Oui, c'est que...
Oui, depuis hier, c'est plus fort parce que hier, c'est un Kosoma qui m'a fait très effrayer. Un Kosoma disant que ceci comme dans une montagne très 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 haut et très profond en bas, il y a quelqu'un qui m'a renversé. J'avais des maux de tête bien sûr, mais depuis que c'est devenu fort, fort.
Sauf que ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de souffrance. Et que j'ai l'impression qu'il y a eu une période où ça allait un peu mieux, où il y avait un peu moins de souffrance.
Oui.
Et que là, il y en a de nouveau beaucoup de souffrance. Wow.
Vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce du film « Avec les mots des autres », réalisé par Antoine Dubos. Luc Lavrieux est parti à la rencontre de ce réalisateur pour en savoir plus.
Bonjour Antoine Dubos.
Bonjour.
Antoine Dubos, vous êtes réalisateur de films documentaires sur l'exclusion, sur les exilés. Et vous venez présenter le mercredi 14 décembre prochain à 20h30 au cinéma Le Concorde à Nantes votre film Avec les mots des autres que vous avez réalisé en 2020. Ce film montre une équipe mobile précarité et psychiatrie à Chambéry qui reçoit des demandeurs d'asile en consultation. Avec leurs mots, ils essayent de dire leurs difficultés, leurs peurs, leurs demandes. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ce film?
J'ai travaillé sur plusieurs films avant celui-ci qui parlaient déjà de questions d'exil. J'avais travaillé notamment auprès d'un collectif de mineurs isolés étrangers ou maintenant mineurs non accompagnés. Et j'avais aussi filmé dans un centre de transit à Lyon un film qui s'appelait L'Attente. Et c'est un peu suite à ces premiers travaux que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la santé mentale. Et par ailleurs, il y a une équipe de recherche de l'hôpital du Vinatier à Lyon et de l'ENS de Lyon qui travaillait sur les questions de langue, de santé mentale et qui avait envie de prolonger ces recherches aussi en permettant à un réalisateur de s'emparer un peu de toutes ces questions. Et de toutes ces rencontres est née cette envie de film et a commencé cette rencontre avec l'équipe mobile précarité psychiatrie de Chambéry où j'ai passé à peu près 6 mois en repérage afin de nouer des liens avec cette équipe, de rencontrer les différents soignants, mais aussi les patients, les interprètes et commencer à imaginer le film qu'on pourrait faire ensemble.
Donc une adaptation de 6 mois, une appropriation de 6 mois des contacts. Est-ce que votre caméra, votre micro, votre installation a été une gêne dans ces relations qui sont quand même personnelles, interpersonnelles entre les soignants et puis les exilés, les demandeurs d'asile?
En effet, c'est toujours une question très sensible d'introduire une caméra dans un lieu n'importe lequel, mais qui plus est dans un lieu de soins. Avec des personnes qui sont quand même en très grande précarité, en très grande fragilité. Filmer le travail aussi, des interprètes et des soignants. C'est évidemment pas du tout anodin d'introduire une caméra dans un lieu de consultation. D'où aussi ces 6 mois de repérage sans caméra qui ont permis d'expliquer le projet, d'en discuter avec les différentes personnes et petit à petit de les faire prendre part finalement à ce film. Et après, dans un second temps, une fois que le tournage commence, moi, finalement, je considère qu'il faut aussi assumer que la caméra, elle change quelque chose. C'est-à-dire que les consultations que je filme, qui sont sous le regard de la caméra, c'est forcément pas exactement les mêmes consultations en dehors de la caméra. Et tant mieux. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important, finalement, que les gens qui s'expriment pendant ces consultations aient toujours conscience que leur parole va être projetée dans des salles, montrée à un grand public, et qu'en cela, ils puissent toujours savoir qu'ils ne sont pas obligés de livrer exactement les mêmes choses que dans le cadre d'une consultation classique. Donc oui, bien sûr que la caméra, elle change quelque chose. L'idée, c'est qu'elle soit à la fois discrète, mais qu'elle assume sa présence pour moi. L'idée, c'est d'accepter que mon corps de cinéaste et la caméra soient une présence, presque, j'ai envie de dire, au même titre que l'interprète peut être un tiers aussi dans une consultation en santé mentale. La caméra rajoute encore comme ça une nouvelle présence avec laquelle il faut faire avec. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce travail de documentaire.
Et en particulier, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué dans des dialogues dont pourriez nous parler?
Des moments qui m'ont marqué à la fois dans le tournage et puis après qu'ils soient ou non dans le film, il y en a énormément. Peut-être je peux juste dire un mot un peu plus général sur le fait que les paroles beaucoup de paroles m'ont marqué, mais notamment celles aussi qui disaient la difficulté à se raconter finalement et la violence que ça pouvait représenter. De devoir tout d'un coup exposer son traumatisme, exposer sa vie, devoir dire les choses. Je dis ça par rapport au fait que les personnes expriment beaucoup leurs craintes par rapport à leur passage devant l'OFPRA ou devant la CNDA, donc devant les institutions devant lesquelles elles vont devoir demander l'asile. Et cette crainte-là de devoir à un moment tout dévoiler, j'ai trouvé toutes les paroles qui étaient autour de ces questions m'ont beaucoup marqué, en tout cas. Et c'est vrai que, par exemple, dans le film, il y a une séquence avec une jeune femme qui vient du Bangladesh, qui est une jeune femme que j'avais déjà rencontrée à de nombreuses reprises pendant les repérages. Et c'est une séquence du film où on voit bien toute la difficulté que sera pour elle le fait de raconter son histoire devant l'OFPRA, et c'est vrai que par exemple ces mots à elle m'ont toujours et ces silences aussi, parce que c'est beaucoup de silence finalement chez elle aussi, où on sent qu'elle ne peut pas parler. Ça je trouve ça toujours très très marquant pour le coup.
Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des interprètes qui sont en lien avec les demandeurs mais aussi les écoutants
dans le film avec les mots des autres? La plupart du temps, ce sont des interprètes en présentiel, donc qui participent à la consultation. On voit aussi quelques séquences dans le film où les interprètes sont présents par téléphone, via des plateformes. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très intéressant de les observer, parce que à plusieurs titres, c'est-à-dire que, c'est un peu ce que je disais, moi je les vois un peu comme des passeurs, ces interprètes, et j'aime beaucoup le mot interprète. Enfin, puis moi qui viens du cinéma, c'est-à-dire il y a quelque chose... à la fois du corps qui doit s'engager, au-delà de la traduction évidemment, à laquelle évidemment on pense tout de suite sur le rôle de l'interprète, mais il y a aussi son engagement dans le corps, dans la consultation, fait lui aussi qu'il est présent dans cette pièce, que du coup il faut lui faire une place, il faut que ça devienne un triangle cette consultation, et il n'est pas juste là pour moi comme une personne effacée qui se contenterait de traduire, mais il est là avec sa singularité, son histoire, sa manière d'expliquer les choses, d'expliquer certains mots. C'est vrai que dans le film, on voit à plusieurs endroits des interprètes qui vont essayer d'expliquer que, par exemple, tel mot n'a pas de transposition dans la langue, cauchemar ou d'autres, traumatismes, etc. Donc, ils ont tout un rôle d'essayer de trouver comment pouvoir faire passer ce que le soignant, par exemple, souhaite communiquer au patient. Et j'ai trouvé ouais, cette relation vraiment très intéressante. Et souvent, ils sont aussi, d'une certaine manière, un peu... des fois, ils accompagnent la personne dans d'autres lieux que ceux de la consultation. Donc, ils sont presque un savoir du patient qui peut même dépasser parfois, entre guillemets, celui du soignant, parce que la semaine précédente, ils ont assisté à d'autres entretiens avec une assistante sociale ou avec d'autres professionnels. Et je trouve toujours leur rôle à la fois discret et très présent. Il m'a beaucoup intéressé pour ce film. Et le travail de la langue, évidemment, est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi.
Quelque part, ils ont un rôle essentiel dans l'intercommunication.
Oui, et d'ailleurs, je crois qu'on le voit bien dans le film. Je pense notamment à une scène légère et un peu anecdotique où l'infirmière psy qui mène l'entretien met fin à l'interprétariat un peu trop tôt. Pour le coup, c'est un interprétariat téléphonique parce qu'elle a posé toutes les questions qu'elle voulait et elle met fin à l'entretien. Et après, elle doit prendre rendez-vous avec le patient pour une date suivante. Et tout d'un coup, ils n'arrivent plus à communiquer, ils n'arrivent pas à prendre ce nouveau rendez-vous. Et je trouve ça intéressant. C'est à la fois, évidemment, une petite chose, mais qui dit bien à quel point le rôle de l'interprète, il doit être pensé à chaque endroit et qu'il met de la fluidité et de la communication à plein d'endroits, à la fois, évidemment, sur les questions que veut poser le soignant, mais aussi... dans le déroulement de la séance, dans toutes ces choses-là. Et c'est en ça que je pense qu'il doit être vraiment associé à la consultation du début jusqu'à la fin.
Merci Antoine Dubos pour nous avoir éclairé sur la genèse du film et puis son déroulé. Alors nous recommandons bien sûr à tous de venir voir le film qui sera présenté, je le rappelle, le 14 décembre au cinéma Le Concorde à 20h30. Et vous y serez présents pour le présenter et en débattre à la suite de la projection pour nous éclairer.
Tout à fait. je vous remercie également. Puis au plaisir du coup de se voir en chair et en os lors de cette séance.
Merci d'avoir écouté Nuage Delay sur Jet FM. Nous nous laissons en musique avec le titre Ellis Island de Meredith Monk.